News Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans maxis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu,
102.2,
la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
C'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, de ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est lundi 9 janvier 2023 et c'est le Canus Info du deuxième lundi de mois. Il est 19h04 et on va commencer à l'international en parlant du droit de grève au Royaume-Uni et en écoutant une petite interview et un reportage sur ce qui se passe au Pérou.
Et puis on ira du côté du national pour vous parler du chlordécone et du non-lieu qui a eu lieu la semaine dernière, le non-lieu de la honte, avant d'aller du côté de la réforme des retraites. Et oui, c'est la rentrée, on va en entendre parler ces prochaines semaines et on va commencer dès maintenant. On va poursuivre tout ça avec une interview de personnes qui participent à la Brigade des Fauchés.
Et ensuite, au local, on parlera du droit de grève à Lyon et ensuite une interview de l'association Impact et puis une petite transition musicale.
Et on commence tout de suite avec notre citation de la semaine.
Et oui, la citation du jour concerne notre bonne et chère Sandrine Runel, adjointe des solidarités et à l'inclusion, ainsi que conseillère du 8e arrondissement, qui brille encore sur sa conception bien spécifique de la solidarité et cumule encore une jolie bourde à son actif concernant la gestion de l'accès au logement et du mal logement. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une citation, mais deux, de notre chère Sandrine Runel. Le 26 avril 2021, lors d'une commission permanente, elle déclare « Notre responsabilité est de garantir des conditions d'habitat dignes ». Et sur les réseaux sociaux d'écrire « Les collectivités se doivent d'accompagner les plus fragiles pour garantir l'accès aux droits fondamentaux et des conditions dignes d'existence ». Pourtant, celle-ci a été impliquée dans plusieurs procédures d'expulsion de squats. Et il y a quelques jours, on a appris que Sandrine Runel, adjointe donc à la solidarité, est propriétaire d'un logement insalubre dans le quartier de la Guillotière. Mais selon elle, c'était compliqué de trouver des artisans à Lyon, surtout quand on ne veut pas réaliser ses travaux. Logement insalubre donc, et ne respectant pas les critères de décence, tout y est, hall d'immeuble délabré, cohabitation avec les souris, moisissures, manque d'aération, trous dans les murs, porte d'entrée défectueuse et un loyer bien évidemment trop cher, ne respectant pas les conditions d'encadrement des loyers. La locataire a demandé à la propriétaire, donc Sandrine, de faire des travaux à plusieurs reprises, restée sans réponse. On n'est donc pas très sûr d'avoir les mêmes conceptions de l'habitat digne et les mêmes stratégies d'accompagnement des personnes dans l'accès aux droits. Il semblerait que la sienne repose sur la location de logements indignes et l'expulsion de squats. On lui conseille donc vivement d'abandonner son poste de solidarité et on espère qu'elle trouvera enfin des artisans et qu'elle payera des indemnités à la locataire.
Vous écoutez les Canus Info, nous sommes le 9 janvier 2023 et on commence avec l'international.
Et oui, on va aller du côté du Royaume-Uni puisque face aux mobilisations historiques que connaît le pays depuis cet été, le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi une loi anti-grève. Alors depuis plusieurs mois, on en a pas mal parlé ici, mais les Britanniques se mobilisent pour demander des augmentations de salaire. L'inflation outre-Manche, elle tourne autour de 11%. Ces derniers mois, c'est le secteur de la santé qui est rentré dans la lutte pour la première fois de son histoire. Le Premier ministre Rishi Sunak, alors qui a remplacé Liz Truss, hein, qui avait démissionné, elle, fin octobre. On se souvient qu'elle avait démissionné suite à une très impopulaire politique budgétaire en faveur évidemment des plus riches. Son remplaçant donc, il sort lui de son sac de nouvelles lois anti-grève qui ciblent directement les secteurs à l'initiative des grandes mobilisations, les travailleurs des transports, de l'éducation, de la santé, les pompiers et du démantèlement nucléaire. Ils devront donc assurer un service minimum. Le Premier ministre attaque donc directement celles et ceux qui se mobilisent face à l'inflation et qui réclament de meilleures conditions d'existence. Pendant les fêtes de Noël, il avait déjà fait appel à plus de 1200 militaires pour casser la grève des ambulanciers. La relève de Margaret Thatcher semble donc bien assurée.
International toujours, et on traverse l'océan Atlantique.
Et oui, on va aller du côté du Pérou, mais quelques mois avant, puisque hier, des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro se sont mobilisés au Brésil. Ils ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et le siège du Tribunal suprême de justice. Lula, il a été élu fin octobre face donc à l'ancien président d'extrême droite. Il est entré en fonction ce 1er janvier et déjà ses opposants marquent un grand coup hier. Alors c'est un petit Capitole bis hein, dont on connaîtra les véritables ressorts dans les jours qui viennent. L'événement, il montre quand même une lame de fond qui traverse l'Amérique latine depuis de nombreuses années, entre d'un côté la montée de l'extrême droite et les espoirs suscités par de nouvelles figures de la gauche. Au Pérou, c'est un peu la même chose puisqu'un coup d'état institutionnel a vu destituer son président de gauche Castillo le 7 décembre. On a pu interviewer Muriel, une militante péruvienne qui vit à Paris. C'est une interview qui a été enregistrée ce samedi 7 janvier. On écoute tout de suite.
Eh ben, bonjour Muriel et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu nous expliquer la genèse de la crise institutionnelle que traverse le Pérou et nous parler un peu de Dina Boluarte ?
Oui, alors le Pérou, il est en crise institutionnelle, en crise politique depuis 2016. En 5 ans, on a connu 6 présidents, dont un dictateur qui a duré 5 jours. Même des périodes, par exemple, justement, où par exemple, il y a eu 2 présidents en même temps. Enfin, ça a duré 24 heures, mais 23 heures. Mais voilà, c'était vraiment une période dans laquelle il y a eu plusieurs tentatives de destitution au président qui était en place. Parce que comme il y en a eu 6 en 5 ans, à chaque président, il y a eu des tentatives de destitution de la part du Parlement. Et du coup, on est arrivé à 2022, enfin aux nouvelles élections, dans lesquelles Pedro Castillo il a été élu. Et bien sûr, les tentatives de déstabilisation politique de la part du fujimorisme, de l'extrême droite en général, elle ne s'est pas arrêtée, puisque dès le moment où Pedro Castillo il a gagné les élections, il y a eu de nouveau des tentatives de déstabilisation, en par exemple inventant le mythe de la fraude, en disant qu'il avait fait une fraude électorale. Et donc ça a amené à des énormes mobilisations dans tout le Pérou pour que leur vote soit reconnu et que Castillo soit enfin déclaré officiellement comme le gagnant de ces élections. Suite à sa prise de fonction, le Parlement n'a pas arrêté ses tentatives de déstabilisation parce qu'ils ont recommencé leur demande de destitution de Pedro Castillo. Donc il y en a eu 2 qui n'ont pas fonctionné. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a toutes différentes façons de déstabiliser le pays, d'essayer, par exemple, d'avoir la main sur les membres du tribunal constitutionnel. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent en parallèle sur plein de scènes différentes. Mais tout bascule, en fait, finalement, le 7 décembre, quand Pedro Castillo, il va donc fermer le Congrès. Et donc, suite à ça, le Congrès va voter sa destitution. Et donc, c'est sa vice-présidente, Dina Boluarte, qui va prendre la présidence du Pérou, qui est considérée par les mobilisations actuelles comme une dictatrice, mais qui est aussi considérée comme une sorte de marionnette du Congrès. En fait, au Pérou, en ce moment, on parle de dictature parlementaire, en fait. Dina Boluarte, en gros, c'est une avocate et fonctionnaire d'État qui faisait partie du parti Pérou Libre, qui est le parti avec lequel Pedro Castillo a postulé à la présidence. Elle a été expulsée du parti suite à des propos qu'elle a tenus. Enfin, parallèlement à ça aussi, le Parlement, ils ont essayé de... Enfin, ils ont commencé une sorte de bataille judiciaire contre Castillo et aussi contre Boluarte à cette époque-là, en les accusant de corruption. Donc Castillo, là, il fait l'objet de dénonciations de corruption. Et donc, c'est quelque chose qui doit, bien sûr, pour l'instant, c'est encore en investigation, mais c'était un peu leur excuse pour essayer de le destituer. Et donc, Dina Boluarte aussi, à un moment, elle avait été poursuivie par... un peu harcelé par le Congrès. Et comme par hasard, toutes ces poursuites, ces tentatives de poursuites, elles ont été abandonnées une semaine avant sa prise de fonction.
Oui, en réalité, cette crise institutionnelle, elle révèle une crise politique plus profonde, à la fois d'un côté le renforcement de la gauche, mais aussi un durcissement de l'ultra-droite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces dynamiques politiques au Pérou ?
Actuellement, c'est clair que la droite au Pérou, elle devient beaucoup plus dure dans cette prise de pouvoir, vraiment, où ils ont carrément arraché le pouvoir. Ils n'ont carrément pas respecté le vote démocratique des Péruviens et des Péruviennes qui, justement, ont élu Castillo comme président. Parce que même avant qu'ils prennent les fonctions, ils étaient déjà en train de le destituer. Et surtout, cette ultra-droite, maintenant, avec l'élection de Castillo, elle s'est lâchée complètement sur un racisme et un classisme, mais incroyable, des attaques à Castillo par rapport à ses origines comme paysan, comme personne qui est originaire des populations indigènes.
L'élection de Castillo, ça représentait un vrai espoir pour une immense majorité des Péruviens, j'imagine.
En fait, Castillo, c'est un ancien syndicaliste, c'était un professeur rural, il était aussi membre des Rondas Campesinas, que c'est une organisation indigène qui est très puissante dans la région de laquelle il vient. Et donc Castillo, il représente pour une fois le peuple péruvien qui n'est pas de la capitale, leur langue maternelle c'est pas l'espagnol, qui sont quechuafones ou qui parlent d'autres langues originaires. Castillo, c'est quelqu'un qui a participé à des grosses luttes justement quand il était syndicaliste. Donc quelqu'un qui ressemble justement à cette partie du Pérou qui a toujours été méprisée, qui a toujours été laissée de côté, qui a toujours été invalidée et qui ne plaît pas justement aux élites de l'Iméniennes, de la capitale et à la classe politique traditionnelle.
Et justement aujourd'hui, les personnes qui sont dans la rue, c'est précisément toute cette partie-là de la population qui réclame face à la constitution Fujimoriste la nécessaire assemblée constituante. Alors concrètement, c'est quoi cette revendication ?
Alors, il faut savoir que la constitution qu'on a au Pérou actuellement, c'est la constitution de 1993, qui a été mise en place par Alberto Fujimori pendant la dictature. Et cette constitution, elle a éliminé les droits du travail, les droits syndicaux, elle a détruit l'éducation, la santé, enfin voilà. Donc, et cette constitution, par ailleurs, c'est aussi c'est sur quoi s'appuie justement le Parlement pour pouvoir mener ces tentatives de destitution les unes après les autres à tous les présidents qui sont passés
depuis
ces
2016.
Dernières années. Cette naissance de demande de nouvelle constitution, en fait, elle a commencé pas tout de suite, mais elle a commencé déjà quand il y a eu la destitution de Martin Vizcarra, un des présidents qu'il y a eu dans cette période. Lui, il avait justement fermé le Parlement, s'il avait été très bien vu et accepté par les Péruviens et Péruviennes qui n'en pouvaient plus justement des tentatives de déstabilisation, de la crise politique, etc. Quand Martin Vizcarra a été destitué, il y a eu une dictature qui a duré 5 jours, justement celle de Manuel Merino. Et c'est justement pendant ces manifestations qu'on commence déjà à entendre parler de cette revendication de nouvelle constitution. Et c'est cette colère sur l'instabilité qui fait naître, qui pousse justement sur cette demande de nouvelle constitution. Sauf que maintenant, les mobilisations actuelles, elles sont vraiment, vraiment centrées là-dessus. On va dire que ça en parlait déjà avant, en 2020. Mais là, en 2022, toutes ces mobilisations, en fait, les revendications principales qu'il y a actuellement dans les mobilisations, c'est la fermeture du Congrès, la nouvelle constitution et la libération de Pedro Castillo, qui est maintenant emprisonné de façon illégale par la dictature actuelle.
Et alors justement, cette mobilisation, elle prend quelle forme ? Il y a des grèves, des blocages, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors là, actuellement, on est dans une période depuis le 4 janvier de grève indéfinie. C'était le cas aussi avant quand tout a éclaté, hein, depuis début décembre, avec quelques jours de trêve, on va dire une semaine de trêve de Noël où ça a été un peu plus calme, et parce que aussi il y a eu beaucoup de morts, donc les gens étaient en train de aussi se remettre justement de toute cette violence. Mais actuellement, en effet, le Pérou, il est en grève indéfinie, les populations indigènes se sont déclarées en insurrection. Donc la forme que ça prend, c'est il y en a plusieurs. Déjà, on peut voir que qui se fait le plus actuellement, c'est les blocages des routes principales. Il faut savoir que le Pérou fonctionne beaucoup par le transport terrestre parce qu'il n'y a pas de train. En fait, on n'a pas de train au Pérou. Enfin, on en a très, très peu, quoi. C'est une façon aussi de bloquer tout, quoi. De bloquer tout le pays quand on bloque toutes les routes principales. Donc, c'est surtout le sud en ce moment qui bloque le plus. Mais il y a des blocages partout dans le Pérou. Une autre modalité qu'elle prend cette mobilisation, c'est la prise des aéroports. Il y a eu plusieurs tentatives de prise d'aéroports. Les routes qui amènent aux mines aussi ont été bloquées. Enfin, il y a plusieurs grèves, des blocages. Il y a beaucoup de personnes des communautés paysannes et indigènes qui sont descendues de leur communauté pour aller dans les villes les plus proches, et notamment beaucoup de camarades qui sont allés jusqu'à la capitale. Et qui donc maintenant sont là-bas en train de camper dans des places publiques pour justement mener la lutte depuis là-bas. Et ça aussi, ça a été impressionnant de voir toute cette mobilisation qui descend justement des communautés paysannes et indigènes et qui va jusqu'aux zones urbaines pour réclamer justice et réclamer la fermeture de congrès et la nouvelle constitution.
Et tu nous as parlé un peu là déjà des morts, la répression elle est immense. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces affrontements, de la réaction du pouvoir face à la mobilisation?
Actuellement, on compte déjà 28 morts à cause de l'armée et de la police. La plupart de ces morts sont des morts à cause des impacts de projectiles d'armes à feu. La répression, elle a été extrêmement forte. Il y a plus de 400 personnes qui sont blessées. Rien que hier, il y a eu une garde à vue de 200 personnes, en comptant plusieurs mineurs de 13 ans, autour de 13 ans. Il y a eu aussi hier des affrontements à Puno, où il y a eu énormément de blessés, dont un qui est entre la vie et la mort. Les camarades qui se mobilisent actuellement aussi mettent en avant justement le retour à ce terrorisme d'État, et le retour aussi à quelque chose de très semblable avec la dictature des années 90 de Fujimori.
Est-ce que tu as des camarades, toi, sur place? Et si oui, c'est quoi leur état d'esprit en ce moment? Est-ce qu'ils sont déterminés à continuer?
En ce moment, je pense que les camarades se lancent sur quelque chose à long terme. C'est inconcevable, je pense, pour les Péruviens et Péruviennes actuellement qui se mobilisent, d'arrêter de se mobiliser. Parce que il y a vraiment aussi une accumulation depuis tellement d'années d'instabilité, et que même quand on arrive enfin à avoir des élections démocratiques où Castillo gagne et que normalement il devrait partir pour 5 ans de gouvernement et tout le monde devrait être tranquille, mais en fait finalement c'est même pas le cas. Et là il y a cette accumulation qui fait que du coup il y a énormément de motivation pour continuer la lutte. Mais d'un autre côté aussi, parallèlement à ça, il y a le fait que Pedro Castillo, malgré toutes les choses qu'on pourrait lui reprocher, ça reste quelqu'un qui est un symbole, en fait, qui est un symbole par son parcours syndicaliste, par son parcours paysan, par son parcours proche des populations indigènes. Et donc, quand on s'attaque à lui et quand on voit la classe politique traditionnelle, l'extrême droite et la droite le traîner dans la boue, l'humilier avec des propos racistes et classistes en permanence, en fait, des camarades aussi, on en a marre de ça, on en a marre du racisme, on en a marre du classisme. Et donc, cette lutte qui se mène actuellement, elle va durer, en fait. Elle va durer, ça va être quelque chose qui doit se concevoir dans le long terme.
Et comment, nous, depuis la France, on peut soutenir cette lutte, les camarades sur place?
Je pense que vraiment le plus important, c'est qu'on peut faire quand on est loin, c'est déjà envoyer de l'argent. Il y a énormément de cagnottes pour les familles des personnes qui ont décédé, qui ont été assassinées par l'armée et la police. Il y a des cagnottes pour les blessés, il y a des cagnottes pour les camarades qui justement sont venus à la capitale pour lutter, et que du coup il faut acheter tous des produits de première nécessité, etc., des matelas, des couvertures. Enfin, il y a beaucoup de cagnottes.
On mettra des liens pour les cagnottes, pour les auditeurs qui veulent participer, on mettra des liens vers les cagnottes sur le blog du Canu Info.
Et aussi, je pense que c'est important de faire circuler ce qui se passe, l'information de ce qui est en train de se passer actuellement au Pérou. Et de ce qui se fait aussi en France, nous les Péruviens et Péruviennes en France, on s'organise aussi. Par exemple, demain, dimanche, du coup le 8, on va faire un rassemblement au Trocadéro avec les camarades péruviens et péruviennes qui sont ici en région parisienne. Donc voilà, je pense que faire circuler l'information de ce que les Péruviens et Péruviennes en France ont fait, de ce qui se passe au Pérou, et participer aux cagnottes.
Et on n'y manquera pas sur le Canu Info de transmettre toutes ces infos. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et à bientôt.
Et il est 19h22, vous êtes à l'écoute du Canus Info du lundi 9 janvier 2023. On vient d'écouter une interview de Muriel, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Coordinadora Memoria contra la Impunidad. Et vous pouvez les contacter éventuellement pour, si vous voulez faire des dons en soutien aux Péruviens et Péruviennes qui sont aujourd'hui dans la rue. Et de notre côté, on continue à propos du Pérou.
Oui, donc le 4 janvier, c'était la reprise de la grève indéfinie au Pérou. Et à Lyon, le même jour, un rassemblement a eu lieu devant l'hôtel de ville organisé par le collectif de soutien au Pérou. On écoute le reportage.
Donc aujourd'hui, on a installé les noms des 28 victimes de la répression d'État au Pérou. On a eu 28 morts en quelques jours, en fait. Beaucoup de mineurs. Donc notamment 10 morts dans le département d'Ayacucho, qui a été le département le plus touché pendant la guerre qu'il y a eu au Pérou entre les années 80 et 2000. Donc du coup, ces morts viennent aussi rappeler cette mémoire, en fait, de ce conflit armé. Et donc, du coup, on est toujours là, en fait, sur les mêmes erreurs de ce qui s'est passé dans les années 80-2000, qui étaient des morts dans les Andes par rapport à la guerre, et donc Lima qui ne faisait jamais attention à ça. Ici, aujourd'hui, on a mis des noms des victimes, et on a mis des bougies, évidemment, pour la veiller, avec quelques slogans pour rappeler les revendications du mouvement social. Ces gens, ils sont morts en manifestant, en fait, pour des droits, c'était leur conviction politique, donc où on dit donc que c'est la répression, l'arrêt de la répression. No hay paz sin justicia, il n'y a pas de paix sans justice sociale d'ailleurs. Et il y a une phrase qu'on dit beaucoup aussi au Pérou, no matarás, donc un peu comme le commandement, tu ne tueras point, ni avec des balles, ni par la faim. Ni con balas, ni con hambre. L'arrêt de traiter les gens comme des terroristes, alto el terruqueo, c'est le terme consacré. Aujourd'hui, toute la gauche, n'importe quelle opposition radicale de gauche est considérée comme terroriste. Il y a des militants stigmatisés, harcelés par la police actuellement. Je veux dire, ils vont dans leur domicile, il y a eu c'est l'état d'urgence, donc on peut aussi arrêter les gens. Il y a eu des syndicalistes étudiants qui ont été harcelés, des militants de partis politiques. Le discours est très inquiétant, en fait. Donc, il y a des propos, des responsables qu'ils veulent éliminer, en fait. C'est vraiment les termes qu'ils utilisent, qu'ils veulent éliminer les opposants. Alors, il faut attention, ils ont éliminé, c'est pas assassiné, mais ils doivent disparaître de l'espace politique, quoi. C'est assez terrible, je ne sais pas comment, il faut juste le suivre. Donc le collectif, le soutien au Pérou se monte un peu pour continuer à observer ce qui se passe.
Bonsoir, merci d'être venu en ce début d'année à ce rassemblement contre la répression d'État subie par le mouvement social au Pérou. En bon gouvernement autoritaire, hier, 3 janvier, la police et la présidente ont appelé et soutenu activement une marche pour la paix à Lima, mais aussi dans d'autres provinces, aux côtés de l'Église, et pour rassembler les bons manifestants et les partisans de l'ordre et des mesures du gouvernement. Ça fait un peu scandale, donc depuis 2 jours, cette Dina Boluarte, la présidente, dit qu'elle ne savait pas, en fait. Alors qu'elle a bien appelé, il y a les images, il y a la presse qui a bien relayé son soutien à cette marche. Donc le mouvement social reprend aujourd'hui, 4 janvier, avec des blocages de routes dans plusieurs zones du pays, et demande de nouvelles élections, la démission de Dina Boluarte et de son gouvernement réactionnaire, et la mise en place d'une assemblée constituante. Nous condamnons la criminalisation des idées politiques et la qualification de terroristes des activistes en lutte. Nous exigeons l'arrêt de la violence et de la persécution des manifestants et manifestantes. Arrêt de l'état d'urgence, non à la répression d'État. Merci.
Cette chanson, Flor de Retama, est une chanson de lutte des années 60 qui est régulièrement reprise. Et comme ces victimes sont des victimes des zones, j'ai un peu imprimé des fleurs de Retama parce que c'est l'hiver, donc on n'en a pas encore. Et la chanson qui tournait un peu au fond pour rappeler ça.
Saber. echando flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume.
Et vous êtes toujours à l'écoute du Canus Info. Vous venez d'écouter Flor de Retama de Martina Portocarrero. Et tout de suite, on passe à l'actualité nationale avec un sujet sur le chlordécone.
Chlordécone ou le non-lieu de la honte. Le scandale du chlordécone se double aujourd'hui d'un déni de justice avec le non-lieu définitif prononcé la semaine dernière. 17 années de procédure pour un scandale sanitaire et environnemental. Plus de 90% de la population des Antilles toujours exposée, et pour des siècles, aux contaminations contenues dans les sols et la mer. La seule réponse de la justice française est de tirer le rideau. Le pôle de santé publique du tribunal judiciaire de Paris a signé une ordonnance de non-lieu lundi 2 janvier dans l'affaire du chlordécone, un pesticide, aux Antilles. Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et avocat des victimes du chlordécone, a affirmé qu'il allait faire appel. Un état de droit ne peut pas dire qu'il y a un non-lieu face à une injustice d'une telle gravité, a-t-il déclaré. Les juges étaient chargés d'enquêter sur des soupçons d'empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui, administration de substances nuisibles et tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation des marchandises. C'est quand même assez ouf, dans leur ordonnance de non-lieu, les magistrates instructrices ont certes reconnu un scandale sanitaire, mais ont estimé qu'il était trop difficile de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés. Dans ses réquisitions, le parquet de Paris avait considéré en novembre 2022 que les faits étaient prescrits et non caractérisés. Faut quand même rappeler que le chlordécone est un pesticide classé cancérogène depuis 1979 par l'OMS. Et faisant fi de ces alertes, la France ne l'a interdit qu'en 90. La France a continué même à l'utiliser en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993 à cause de dérogations signées par les ministres de l'Agriculture de l'époque. Ça quand même très caractérisé et assez facile de trouver des responsables. D'après une étude de Santé publique France, plus de 90% des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des Martiniquais, des Martiniquaises adultes sont aujourd'hui contaminés au chlordécone.
On continue au national avec un sujet qui va nous accompagner ces prochains mois.
Oui, on aura probablement l'occasion d'en reparler hein, puisque c'est bientôt la grève générale. Puisque demain, donc 10 janvier, Elisabeth Borne va nous faire le plaisir de présenter la réforme des retraites tant attendue. Le scénario le plus probable, c'est l'annonce d'un recul progressif de l'âge légal de départ à 64 ans. L'annonce, hein, je le rappelle, était au départ prévue pour mi-décembre, mais Macron avait décidé de la reporter pour éviter un conflit à la veille des fêtes de fin d'année, mais surtout pour poursuivre les négociations avec les Républicains et s'assurer le vote de la droite à l'Assemblée. Alors, un accord que le président des Républicains, Éric Ciotti, semble prêt à valider, ce qui va éviter au gouvernement de recourir au 49-3 pour faire adopter la réforme, donc dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui permet de limiter le temps du débat autour de la réforme. Pour rappel, hein, ce recul de l'âge de départ à la retraite, c'est une catastrophe pour les plus pauvres, puisque selon une enquête INSEE de 2018, près de 25% des 5% d'hommes les plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Avec ce nouveau recul de l'âge de départ à la retraite, ils seront désormais 30%.
National toujours.
On enchaîne avec une petite interview de la Brigade des Fauchés.
Oui, on accueille Marie et Pascal, donc membres de la Brigade des Fauchés. Donc, pour commencer, bonjour et bienvenue. Merci d'être venu.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez présenter le collectif, ce que vous faites et pourquoi ça a été créé ?
La Brigade des Fauchés, c'est un collectif qui regroupe des chômeurs, des chômeuses, des précaires divers et diverses. Des gens bénéficiaires du RSA, des gens qui touchent l'allocation adulte handicapé, par exemple, et d'autres personnes en difficulté. Et donc, c'est ben, pour le bref historique, c'est un collectif qui s'est créé fin 2019, déjà à l'initiative de quelques copains habitants à Lyon. Et donc à la base, c'était pour s'agréger aux manifs contre la réforme du chômage. Voilà, parce que c'était en fait pour regrouper des gens qui faisaient pas partie de syndicats ou qui ne travaillaient pas, mais qui étaient néanmoins complètement concernés par cette réforme. Donc voilà, on a fait des réus, on a fait des manifs, c'était vraiment sympa. Et après, ben, tout ça, ça s'est arrêté assez brutalement, comme beaucoup de choses, avec le premier confinement de 2020. Et ensuite, à l'initiative, là, récemment, au mois de mai, je crois, de cette année, à l'initiative d'un copain, ben on a reformé la Brigade des Fauchés, donc c'était pas forcément les mêmes personnes, et pas forcément le même but. Et là, c'était plutôt dans l'idée de créer une permanence d'accueil. Et donc voilà, là, cette permanence a repris forme en mois de mai, mois de juin. Et surtout au début, on a commencé à les gens intéressés, on a commencé à discuter de quelle forme ça pourrait prendre. Et on a commencé à ouvrir ça au public à partir de la rentrée de septembre. Et donc à accueillir des personnes qui ont des difficultés avec, ben, par exemple, avec leurs allocations. Ou qui ont des questions à poser, et donc nous on est ouvert pour que ces personnes elles viennent discuter avec nous, et soit on peut déjà leur apporter des réponses, ou si on n'a pas les réponses, en tout cas on peut discuter ensemble pour voir un peu comment on peut s'y prendre pour régler, enfin pour avancer dans leur dossier. Ça c'est une phase, et enfin c'est une partie de ce qu'on fait, et il y a une autre partie de ce qu'on fait qui est aussi plus de la veille et de la surveillance de ce qui se passe au niveau politique, et aussi ben, du coup d'essayer de mener des actions quand ce qui se passe nous plaît pas. Voilà.
Et alors justement, ce qui se passe en ce moment, il s'en passe beaucoup des choses sur le chômage ou les allocations. Et tu as parlé de la fondation du collectif qui était autour du premier volet de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, nous résumer ce qui s'est passé au niveau de la réforme de l'assurance chômage et surtout ce qui se passe en ce moment ?
Ben là, on en est à la troisième étape de cette réforme. Alors la première en 2019, qui a été en réalité divisé en deux, mais qui en deux temps. Il y a eu une première étape qui a été de modifier le mode de calcul de l'assurance chômage. Évidemment, c'est un mode de calcul qui s'est fait défavorablement pour les personnes qui choisissent une allocation. On a eu là, juste en fin d'année dernière, l'UNEDIC qui a publié un bilan chiffré, justement, maintenant qu'il y a deux ans de recul de cette première réforme, et on a abouti quand même à des choses assez importantes, c'est-à-dire que le montant moyen de l'indemnisation chômage des gens a baissé quand même de 16%. Ce qui fait une vraie grosse différence. Ça, c'est le premier volet. La deuxième chose qui a changé, ça a été, après avoir baissé le montant, ben on a durci les conditions d'accès à ces droits. Alors en augmentant le nombre de mois pour lequel il fallait avoir travaillé pour avoir droit à toucher du chômage. Là pareil, avec ce bilan de l'UNEDIC, ça montre qu'une personne sur cinq qui auparavant avait droit au chômage, maintenant n'y a plus droit. Là encore c'est énorme, quoi. Ça fait 20% de personnes qui ont été exclues du coup du chômage.
Et là on arrive. On est passé de 4 à 6 mois, ouais, du coup pour la
c'est ça, voilà.
Qui
oui, voilà.
Des droits.
Et ce qui notamment a pénalisé beaucoup de personnes qui étaient parmi les travailleurs et travailleuses les plus précaires, c'est-à-dire toutes les personnes qui faisaient des missions d'intérim, qui faisaient les personnes qui font des jobs saisonniers, etc. Qui évidemment sont les personnes qui ont été plus impactées, oui, puisque le bilan de l'UNEDIC montre effectivement que c'est les personnes les plus jeunes et les plus précaires qui ont le plus morflé dans cette affaire. Et là, on est au troisième volet. Du coup, on a baissé le montant des allocations, on a durci les conditions d'accès aux allocations, et maintenant, on raccourcit la durée des allocations. Comme ça, tous les points où on pouvait vraiment tirer à la baisse, ben, on les aura tous faits. Et ça, c'est pas encore entré en vigueur. Ça entre en vigueur le 1er février, normalement. par simple décret, hein, ça n'a pas été voté. Ou disons que si le Parlement a voté un espèce de chèque en blanc au gouvernement qui a annoncé 2 mois après que ça a été voté le contenu de ce pourquoi les gens avaient voté, c'est spécial comme façon de procéder. Mais c'est la même chose avec le RSA, on verra tout à l'heure. Et là, du coup, la durée va être réduite. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu une usine à gaz, parce que ça dépend en fonction du pourcentage du taux de chômage, enfin, du taux de chômage en tout cas, tel qu'il est calculé par un indice international, ça s'appelle le BIT, voilà, qui est un mode de calcul. On pourra peut-être dire des trucs sur les chiffres, mais qui est le mode de calcul, on va dire, le plus bas qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire que vraiment on compte le minimum de personnes possible dans ce truc-là. Du coup, dès qu'on sera en deçà de 9% de taux de chômage selon ce mode de calcul, et j'insiste vraiment sur le selon ce mode de calcul, ça va baisser de 25%, donc un quart en moins d'allocations. C'est-à-dire que ça sera, pour une personne qui avait 12 mois, bah, il n'y en aura plus que 9. À un moment donné, ça a été évoqué de même passer ça à 40% si on passait en dessous de 6%. Puis ça a été retiré, mais retiré jusqu'à que ça revienne sur le tapis. Et puis il y a deux autres mesures qui vont aussi rentrer en vigueur pour le 1er février, qui ne sont pas anodines non plus. La première, c'est que bah, jusqu'à présent, les personnes qui ont abandonné leur poste, quand elles sont prisonnières d'une situation dans leur travail compliquée, puis qu'elles n'arrivent pas à négocier un licenciement avec leur patron, l'abandon de poste était bien souvent un peu le seul moyen pour ces personnes-là de s'en sortir. Et puis voilà, jusqu'à présent, toucher le chômage, bah, à partir du 1er février, elles ne toucheront plus le chômage. Ce sera considéré comme une démission. Et une démission, ça permet pas d'avoir le chômage. Et dans le même temps, et c'est un peu lié à ce point-là, on n'aura plus le droit de refuser un prolongement d'un CDD 2 fois de suite dans la même année. Donc voilà, faites attention quand vous choisissez un CDD, parce que vous pouvez vous retrouver coincé dedans, et si votre CDD se transforme en CDI, bah, vous ne pourrez même pas abandonner votre poste, parce que sinon vous n'aurez pas droit au chômage.
Oui, un refus de prolongation en CDI aussi, ça fermera les droits au chômage. Du coup, effectivement, tu as parlé de ce décret-là qu'ils ont essayé de passer le 23 décembre, donc juste avant les fêtes de Noël, où ils ont dit « Ah, bah finalement, on va plus couper la durée des allocations de 25%, on va même les couper de 40% quand le taux de chômage sera en dessous de 6%, donc ce fameux taux de chômage qui, en plus, est sûrement mal calculé, comme tu disais. » Donc on a l'impression quand même que... Et puis ils ont annoncé ça, et juste après ils ont retiré cette histoire de 40%. Et là on ne sait pas trop ce qui va se passer, on a l'impression qu'il y a une espèce de fébrilité du gouvernement là-dessus. Est-ce que tu peux revenir un peu sur comment tout ça, ça a été passé en force par le gouvernement, et s'il y a des gens du coup qui se mobilisent face à la réforme de l'assurance chômage ?
Eh ben, c'est qu'en fait, depuis le début, le gouvernement dit, un peu comme sur tous les sujets, hein, je crois qu'ils font la même chose avec les retraites et puis tous les autres trucs, ils disent, ouais, on discute à fond avec les gens, avec les partenaires sociaux, sauf qu'il y a une manière de discuter du gouvernement qui est quand même très spéciale, qui est en gros généralement de mettre les gens devant le fait accompli, et puis s'ils sont pas d'accord, dire bon bah voilà, vous êtes des radicaux qu'on va décrédibiliser. Et là ils ont essayé de faire un peu ce coup-là avec les syndicats, effectivement, qu'ont découvert, parce que pour le chômage ils sont en train de discuter, enfin ils discutent depuis des mois de cette histoire de réforme du chômage, absolument tous les syndicats sont contre, même la CFDT, malgré tout ils le font quand même. Le 23 décembre, effectivement, ils ont annoncé cette histoire des 40%. Les syndicats n'avaient même pas été informés de ça. Bon, ils ont retiré, ce qui du coup permet aux syndicats de crier victoire. Ça sent un petit peu la manipulation, en vrai, cette histoire. Genre de dire, bon bah 25% vous ralliez, on va vous dire 40%, là comme ça vous allez être vraiment encore plus inquiet. Et puis finalement, 25%, si on revient à 25%, bah tout le monde est soulagé et tout le monde peut dire, ah bah finalement ça aurait pu être pire, on s'en sort pas si mal. Alors que de fait, bah si, on s'en sort quand même très mal dans cette affaire.
Et du coup, en réponse à ça, on a vu qu'il y avait des premières occupations de Pôle emploi dans certaines villes de France. Vous avez entendu parler de ça un peu à la Brigade des Fauchés ou...
Oui, tu veux en dire un mot? On a eu quelques échos, effectivement. Alors ça a été pas mal à l'initiative de la CGT précaire, mais pas à Lyon, il n'y a pas eu d'histoire comme ça, mais qui en regroupant pas mal d'autres collectifs, il y a eu des occupations effectivement de Pôle emploi là, qui ont eu lieu ces dernières semaines. Il y a eu ça à Montreuil, je crois qu'il y a eu à Marseille aussi, et puis 2-3 autres villes comme ça en France. Voilà, après, est-ce que ça va se généraliser, c'est peut-être à souhaiter, mais pour l'instant...
Ok, du coup, pas à Lyon pour l'instant, et vous, à la Brigade des Fauchés, vous avez été aussi pas mal pris par une mobilisation contre l'expérimentation de la réforme du RSA sur la métropole. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Oui, ça c'est plutôt ce qui nous occupe en ce moment. Pour les détails de cette expérimentation, j'allais dire Pascal pourra plus vous en parler, mais en vrai c'est méga flou.
On sait rien pour l'instant, c'est un peu ça le problème. C'est tout ce qu'on sait, c'est ce qu'avait annoncé. C'est un rêve de longue date en fait. Peut-être on peut faire une histoire un peu du truc. C'est qu'avant il y avait le RMI qui était quand même nettement moins contraignant que le RSA. Puis sous Sarkozy, il y a le RSA qui est passé, qui imposait un nombre de devoirs, d'obligations plus important pour toutes les personnes bénéficiaires. Et il y a toujours eu ce truc, dès l'époque là, du RSA, de la droite tendance Wauquiez et compagnie, de crier au cancer de la cistana et de vouloir faire travailler les gens en échange de leur RSA. Ce truc-là est revenu très fort pendant l'élection présidentielle avec Valérie Pécresse et puis Emmanuel Macron qui faisait un peu le concours de qui imposera le plus grand nombre d'heures. Il y avait aussi Dupont-Aignan, enfin bref, toute la droite dure qui était sur le dossier, quoi. À un moment donné, on a même parlé de travaux d'intérêt général. Je crois que c'est Castex qui avait un peu dérapé sur ce thème-là. Qui avait osé dire cette expression-là, même si de fait tout le monde l'avait un peu en tête. Et là, la surprise, ça a été que la métropole de Lyon, qu'on croyait dans l'opposition, en tout cas dans la NUPES, puisqu'elle est à majorité Europe Écologie Les Verts, s'est portée candidate pour ça. Et pour une expérimentation donc, qui est censée durer un an, dont tous les deux jours, il y a des petites fuites, comme ça, on apprend des vagues petits détails. Là, on a appris ce week-end que ça concernerait peut-être pas toute la métropole, mais peut-être que Givors et Grigny, c'est plus peut-être Vénissieux, mais c'est encore un peu flou.
Et vous avez mené une campagne, du coup, contre cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait?
Oui, il y a quelques semaines, en fait, on a rédigé, avec la Brigade des Fauchés, on a rédigé un communiqué, déjà, qui était, je crois, lu ici. Oui, puis qui a été publié sur Rebellion. Parallèlement à ça, on a écrit un texte qu'on a envoyé à différentes personnes élues à la métropole.
Et en incitant tous les gens qui voulaient participer, envoyer un texte tout fait.
L'idée c'était un peu de secouer les gens de la métropole pour leur dire qu'est-ce que vous foutez, quoi, qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont répondu. Donc ils nous ont répondu une lettre assez longue qu'on a minutieusement lue avec les copains et les copines de la brigade à la dernière réu, à la dernière perme. Et en fait, oui, il fallait bien être 5 ou 6 pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette lettre. Et une fois qu'on a bien eu compris, on a rédigé une série de questions en réponse. Des questions en réponse à cette lettre pour dire ce point vous l'évoquez pas, ici on comprend pas très bien ce que vous voulez dire, là on comprend pas vraiment votre position, en fait c'est un peu flou, et chacun en fait après était évidemment libre de utiliser ou non ces questions pour les renvoyer. Moi c'est vrai que pour ma part je les ai renvoyées et je les ai tournées à ma manière un peu naïve, et le jour d'après, non, à 14h, j'avais une réponse de Madame Baume, oui. Et j'ai l'impression en fait que cette campagne de questions a fait, les a fait un peu réagir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les réponses qu'on a reçues, à chaque fois, en fait, elles exprimaient quelque chose de plus souple, de plus doux concernant cette... concernant les modalités de cette expérimentation. Après, bon... qu'en penser, je sais pas vraiment.
Depuis le début, en fait, on a essayé de mettre un peu la pression à Métropole en essayant de dire, bah, vous êtes censé être de gauche, vous êtes censé être contre la politique de Macron, et puis finalement, maintenant, vous venez jouer les premiers de la classe à soutenir ça. Et de fait, on a l'impression que cette petite culpabilité d'être de gauche et puis d'être pour ça, ça les met quand même très mal à l'aise. Du coup, c'est un peu le document dont parlait Marie. C'est un peu un festival de phrases très floues comme ça pour dire non, mais quand même, on est gentil, on fait ça pour aider les gens et tout le bazar. Avec, bon, alors des choses un peu rassurantes où ils disent on ne veut pas faire de chantage à location, on veut proposer un accompagnement sur mesure, etc. Chose, somme toute, que commence à dire, y compris le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent surtout plus qu'on parle de travail obligatoire contre les 15-20 heures, parce que c'était ça l'idée de base. Ils veulent parler d'accompagnement rénové, etc., etc. Sauf que de fait, on sent bien que bah, on est toujours dans cette histoire là depuis le RMI, le RSA, etc. On rajoute sans cesse de nouvelles obligations, avec toujours cette idée que bah, les gens au chômage, ils ont besoin d'être stimulés un peu par des obligations, la crainte de perdre leur RSA pour aller au travail. C'est la même histoire avec la réforme du chômage, hein, où pareil, on baisse la durée des allocations, on baisse le montant pour dire comme ça, bah, les gens, s'ils ont un peu peur de se retrouver sans rien, ils vont
plus vite aller retourner bosser.
Voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Et bref, pour le RSA, du coup, voilà, cette réponse, on a décidé un peu de continuer un peu ce jeu-là et de les pousser avec les questions dont parlait Marie, dire bon, oui, mais ok, vous faites plein de grandes et belles déclarations d'intention, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que par exemple, vous nous dites le chantage à l'allocation, vous n'allez pas le pratiquer, vous ne voulez pas d'un RSA conditionné, mais sauf que le RSA, il est déjà conditionné à l'heure où on parle. Ça fait 2 ans que vous le gérez à la métropole, ce RSA, il est déjà conditionné. Il y a déjà des chantages à l'allocation, il y a déjà des personnes qui se retrouvent convoquées devant des séances de discipline, espèce de conseil de discipline à la métropole, pour justifier de ah bah alors voilà, on vous a pas donné le RSA pour rien, vous avez fait telle et telle démarche, etc. Est-ce qu'on continue de vous le donner ou pas, ce RSA? Du coup, on a décidé de pousser un peu le truc avec une lettre un peu mi-sarcastique, mi-sérieuse, qui est depuis aujourd'hui sur Rébellion, et qui, si tout se passe bien, devrait faire que d'ici 2-3 mois, on devrait avoir un revenu de base inconditionné de 1 500 € dans la métropole. Logiquement, si on
Merci
tout va dans le bon sens.
Bon, en tout cas, si des personnes veulent continuer cette discussion avec vous, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire où vous rejoindre et où vous contacter?
Oui, tout à fait. Alors, les permanences de la Brigade des Fauchés, elles ont lieu tous les premiers et tous les troisièmes lundis du mois. C'est à partir de 18h. En gros, c'est 18h-20h, ça traîne souvent un peu. C'est à la Lutine, c'est au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement à Lyon.
Super, merci beaucoup.
Et au local, tout de suite, on va passer à une interview de l'association Impact. Mais en attendant que la copine s'installe, on va faire un petit point rapide sur le tribunal administratif qui vient d'annuler une note de service de la mairie de Lyon dont on avait parlé ici, qui visait à restreindre le droit de grève des agents municipaux. C'était une note qui était là pour casser le droit de grève, hein, pour garantir le service minimum. Elle obligeait notamment les salariés à prévenir de leur mouvement 48 heures à l'avance, et surtout elle entraînait une perte d'un jour complet de salaire. Donc par exemple, dans les cantines où souvent le débrayage c'était juste au moment du service, là les agents avec cette note de service perdaient l'intégralité de leur journée et pas seulement les quelques heures du service. Donc le tribunal administratif a annulé cette note de service. On en apprendra un peu plus la semaine prochaine puisqu'on invite des agents de la ville de Lyon à venir nous en parler.
Et pour finir cette émission, on a la chance d'avoir encore une autre personne avec nous en studio, cette fois-ci pour nous parler d'Impact, une asso d'autodéfense féministe. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Et pour commencer, tout simplement, est-ce que tu voudrais bien nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est qu'Impact ?
Alors, donc l'association Impact. Donc moi, je me présente, je m'appelle Mélanie. Je fais partie de l'association Impact. Je suis salariée de cette association, mais au départ, j'ai commencé à militer de manière bénévole. L'association Impact, elle existe depuis 5 ans. Alors, pour l'histoire, quand même, elle fait suite à une ancienne association qui s'appelait Autodéfense et Autonomie, qui a existé pendant une dizaine d'années. Donc c'est une association de prévention des violences liées au genre. Et le mode d'action principal, c'est de proposer des stages, des ateliers d'autodéfense féministe à destination des femmes, cis et trans, des minorités de genre. Il y a un programme aussi spécifique de prévention des violences pour les enfants. Il y a aussi des stages d'autodéfense pour les filles et les adolescentes.
Alors, on entend souvent des cours de self-défense, d'autodéfense. Qu'est-ce que ça veut dire des cours d'autodéfense féministe ?
Alors, peut-être de dire ce que ça n'est pas. C'est vrai que quand on entend le mot autodéfense, autodéfense féministe, on peut avoir... il peut y avoir peut-être des clichés ou se dire tiens, l'autodéfense, est-ce que ça va être de la self-défense et tout ça? Non. C'est, comme je l'ai dit au début, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de prévention. Donc, ça s'adresse pour un groupe de 8 à 14 participantes. Et l'idée, c'est de partager des outils. On est vraiment dans une démarche de co-construction. Ce que je dis, c'est que moi, comme vous, j'ai participé à un stage d'autodéfense il y a quelques années. Les outils m'ont parlé, me parlent toujours. Et là, j'ai été formée à transmettre ces outils. Et donc, c'est un moment de partage où on alterne des moments où on va éprouver des outils sur de la défense verbale par rapport à des situations spécifiques, sur des violences liées au genre, mais pas que. Ça peut être sur des violences racistes, classistes, etc. Donc alternance de défense verbale, physique, la défense physique, souvent ce que je dis c'est que c'est le dernier recours, mais on passe aussi par ça, et puis tout un tas d'autres exercices et outils.
On ressort comment quand on sort d'un stage d'autodéfense ?
Eh bien, puissante. Après, il y a plein de choses qui en ressortent, mais en général, il y a un avant et un après, et puis après, il y a des... La plupart du temps, les personnes qui s'investissent après dans l'asso, c'est après avoir participé à un stage. C'est un moment, un moment un peu entre parenthèses. On se dit, ok, là, j'ai envie de m'inscrire à un stage. Je me sens de me rendre disponible pour 2 jours et de vivre une expérience quand même assez forte avec des expériences partagées. Ça peut, on n'est pas comme dans un groupe de parole, mais en tout cas ça invite à des moments à se dire ah bah tiens, là il m'est arrivé ça, et puis en fait je m'en suis sortie, en fait je suis toujours vivante et blabla, et voilà, de vraiment mettre l'accent sur les ressources, sur la déculpabilisation aussi par rapport à ce qui a pu, des vécus de violence qu'on a pu rencontrer.
Et du coup, vous êtes une association. Je crois que dans pas longtemps, le 14 janvier, vous allez faire une soirée. Est-ce que tu veux nous en parler un peu et savoir comment est-ce qu'on peut vous rejoindre et qu'est-ce qui va se passer le 14 janvier ?
Alors, le 14 janvier, c'est un temps convivial de présentation de l'association. Donc là, c'est un peu rapide, mais vraiment, si vous avez envie de nous rencontrer et de discuter davantage de la prévention des violences, là, je suis toute seule, mais il y aura les autres personnes. Donc, on a un petit collectif de 6 personnes. Donc le 14 janvier, c'est à 16h, de 16h à minuit, à l'atelier des Canulars, rue Montesquieu. Un temps de présentation de l'association, il y aura des jeux, il me semble. Je ne suis pas dans l'organisation. Il y aura de la nourriture, mais vous pouvez aussi ramener des choses à partager, à manger, à boire. C'est en mixité choisie sans mexis.
Et désolé, c'était un entretien rapide, mais en tout cas, ce qu'on a retenu, c'est qu'on peut vous retrouver le 14 janvier, que vous avez aussi un site internet sur lequel on peut avoir plus d'informations sur ce que l'association elle propose. Comme tu l'as dit, elle propose des stages d'autodéfense féministe pour les femmes, les personnes trans, les minorités de genre, adultes, adolescentes. Il y a aussi des programmes pour les enfants, que vous avez des stages prévus en avril, en juin et en juillet, que vous avez un mail auquel on peut vous écrire, qui est asso@impact.org. Et du coup, rendez-vous le 14 janvier à l'atelier des Canulars. Pratique, c'est la même adresse qu'avant, 91 rue Montesquieu. Merci beaucoup.
Merci.
Et je crois qu'on a encore le temps pour peut-être d'autres rendez-vous, non ?
Oui, on fait un agenda très très rapide. Donc demain, mardi 10 janvier à 18h30 à la Bourse du Travail, il y aura une réunion publique sur la réforme des retraites, justement organisée par Solidaires en présence de Michaël Zemmour, je dis bien Michaël, économiste à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Et mercredi matin, alors on n'a pas l'horaire, mais on a quand même envie de vous en parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tout par Gel. Alors maintenant, ça s'appelle Place du Marché. Et bien, sachez que 1600 salariés se préparent à la fermeture de leur entreprise par le tribunal de commerce de Lyon. Cette entreprise, elle est à Argentan, dans l'Orne. Et sachez aussi que le maire a affrété un car pour que les salariés puissent militer pour leur travail. Donc, courant rendez-vous devant le tribunal de commerce de Lyon, mercredi matin.
Et mercredi après-midi, il y aura la garderie autogérée au Casdal, c'est-à-dire au 221 rue de Créqui. Et puis d'autres mercredis en garderie autogérée seront organisés tout le mois de janvier.
Et mercredi toujours, à 18h, il y aura la présentation du livre 1312 raisons d'abolir la police de Gwenola Ricordo en sa présence.
Et puis samedi, pour finir, si vous avez vraiment envie d'aller manifester, vous pouvez aller devant la préfecture de l'Ardèche, ça fait un petit peu loin, mais c'est pour manifester contre la reprise du chantier à Saint-Pierre-de-Colombiers, donc samedi 14, devant la préfecture de l'Ardèche, rendez-vous 14h.
Et puis samedi, il y aura une cantine discussion de soutien à la Brigade de Solidarité Populaire de Paris, qui est condamnée à verser 38 000 euros d'amende à Carrefour. C'est une soirée de soutien à partir de 18h à l'illégalité à Villeurbanne, organisée par le collectif Inflaction.
Tout à fait. Et il y a aussi évidemment l'événement d'impact ce samedi, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et bien, quant à nous, on va vous dire à dans un mois, c'est-à-dire le deuxième lundi de février, dont j'ignore parfaitement le numéro.